Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Like a ship beside adventure, your bumper ditches to be kind. Sure, there must be more. coming from your mouth than manure. So with the foreigners break, I say, hey, you must become a prince before you're king anyway.
Do that, somebody.
It's time I get ignorant. That beat the beat that I'm rocking, yo, so could get a hit. And put your thinking cap on, you before worn. I call upon the inner force, I've got bone in my cauldron. That means my nuggets, sometimes I'm rugged. The style I possess, we have the other brothers bugging. And this is for those who oppose the propose to overexpose, disclose, pose a threat to my brother. Like any other man making a stand, I'll be damned if I let you play this hand. I'm the blackjack dealer and the cards are stacked. What do you expect to win when you're used to playing craps? Skin triggered, I mean it's a sticky situation to resurrect a groove with feeling and give it this much affection. Past it flows, who knows what lurks in the gallows of my mind. I put my foot in the ass of Jim Crow. 12 inches of non-stop soul, I'm on a royal pee. It's time for the show. So do that somebody. Wave your hands in the air, this is a motherfucking party. While you're laying back, I'm on the attack. Patty whack, give yourself a bone. This is my house and I'm prone to land some chrome upside some motherfucking dome. And I'm out.
My name is Prince.
Pluriel, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Voilà, nous nous devions évidemment de faire un petit hommage à Prince qui vient de disparaître. Ce soir, je suis avec Yvan Mitifio.
Bonsoir.
Bonsoir Yvan.
Bonsoir patronne.
Notre monsieur cinéma. Et à la régie, notre Bernardo, tant aimé. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Alors... Yvan, donc je t'ai convoqué, n'est-ce pas,
les bien sûr.
Puisque je me suis dit, alors, il y a longtemps qu'on l'a pas eu à l'émission, donc on va lui demander de venir un petit peu parce qu'il y a de l'actualité chaud brûlant en ce moment au niveau cinéma. Moi, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va diffuser des interviews que tu avais faites d'ailleurs. Hein, c'est toi qui les as interviewées, des acteurs, des protagonistes du film Théo Hugo dans le même bateau. Théo Hugo dans le même bateau. Qui avait fait l'ouverture du festival Écran Mixte, dont tu es le directeur artistique, tout le monde le sait bien. Donc, le festival Écran Mixte, c'était la sixième édition.
Et c'était le mercredi 2 mars, c'était la première fois que le film était montré en France. Première nationale, c'était la grande ouverture, c'était une soirée magnifique.
Ouais. Ils revenaient de Berlin, en fait, et vous avez été, ouais. Ils avaient été, donc.
Ils revenaient auréolés du prix du public au Teddy Award. Donc, c'est leur première projection française. Il y avait, Geoffrey Couet et, François Nambeau et, le co-réalisateur Olivier Ducastel.
D'accord. Alors donc, on a profité de leur venue à Lyon pour cette avant-première, de la venue des acteurs que tu viens de citer et d'Olivier Ducastel pour faire des petites interviews. Hein. Alors, il faut savoir que Théo Hugo, en plus, sort aujourd'hui.
À Lyon, il ne sort que dans une seule salle, ouais. Au Comédia. Mmh. C'est un film, c'est quand même un film très intéressant. C'est un film qui va faire date. Moi, je pense que c'est un film qui va devenir un classique du cinéma LGBT, comme l'est L'Inconnu du Lac. Mmh. Je pense que Théo Hugo va faire partie vraiment du patrimoine cinématographique LGBT. C'est un film important et c'est un film tout à fait ancré dans son époque.
C'est un film surtout qui reparle du sida.
Oui.
Qu'on oublie un petit peu.
C'est vrai, c'est toujours un petit peu là chez Ducastel et Martineau. Ils avaient fait la première comédie musicale homosexuelle sur le sida, Jeanne et le garçon formidable, il y a 20 ans. Ils avaient été les premiers aussi à parler des premières trithérapies avec cette très belle comédie Drôle de Félix au début des années 2000. Et là, ils reviennent avec un vrai film sur l'amour, un film plein d'espoir sur deux jeunes hommes qui vont se rencontrer dans une boîte de sexe, en fait. Le film commence comme ça et ensuite... Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sortent de la boîte de sexe? C'est un film très romantique, qui est plein d'espoir, qui parle de la vie à deux, qui parle des couples sérodiscordants tout de même. On est quand même dans un film qui sort dans plein de salles en France, qui parle de ça, des couples sérodiscordants. Comment est-ce qu'on vit avec un des deux qui est séropositif et l'autre non. C'est un film qui parle aussi de traitement post-exposition, c'est-à-dire la pilule du lendemain, un petit peu, hein, du sida, quand on a fait une bêtise On prend donc un traitement préventif pendant un mois, je crois, c'est ça, pour éviter que le virus s'installe. C'est vraiment un film qui parle de ça et qui parle d'amour. C'est un film important, je pense.
Alors, ce qu'on va faire, on va déjà écouter l'interview, la première interview, donc réalisée avec les deux acteurs principaux, donc Geoffrey Couet et François Nambeau. Je ne suis pas trompé, hein, c'est ça. Voilà, donc on va écouter l'interview, cette interview réalisée à Lyon. En mars.
Le 2 mars.
Le 2 mars, au début du festival. Alors,
François Nambeau et Geoffrey Couet, bonjour.
Bonjour.
On a tout vu de vous, mais on vous connaît très peu. On aimerait en savoir un peu plus de vous. Donc vous, Geoffrey, vous êtes également metteur en scène.
Oui, j'ai mis en scène plusieurs pièces. J'écris et je réalise des courts-métrages. Et en ce moment, je suis en train d'essayer d'écrire mon premier long.
Et vous avez une formation de comédien ?
Oui, j'ai fait le cours Florent 2006 à 2009. Et voilà, j'ai plein d'expériences de théâtre, de jeu, en tant que danseur aussi.
Et de cinéma ?
Oui, de cinéma, bah, j'ai eu quelques petits rôles au cinéma. Et là, c'est mon premier grand rôle au cinéma, dans un film dont je suis très fier.
François Nambeau, bonjour.
Bonjour.
Vous également, je crois que vous venez du théâtre.
Oui, oui, j'ai eu un enseignement classique. Dans un conservatoire, ce qui a été très précieux, ce qui est très précieux de toute façon quand on veut faire du cinéma après, ça je pourrais en dire un mot après si on parle un petit peu de comment le film s'est fait.
Oui.
Je crois que c'était. J'étais très content d'avoir eu cette formation parce que ça donne un peu de rigueur, un peu de tenue dans le travail. Et dans un film comme celui-là où les conditions de fabrication étaient serrées, on est. Peu de jours de tournage, donc des grosses journées, des grosses nuits en l'occurrence de tournage, il faut absolument être prêt et en ça la formation que j'ai reçue est très bonne et dans le sens où voilà, comme il y avait beaucoup de textes à jouer chaque soir, il fallait l'enseignement du théâtre a été là-dessus tout à fait précieuse.
Alors, comment est-ce que vous avez été contactés tous les deux sur le projet du film ?
Alors, de façon très simple, on a répondu à une annonce sur Internet, une annonce qui était claire sur le fait qu'il y avait des scènes de sexe explicites. Et donc, on a été convoqués pour un casting, et en fait, ce casting, c'était une scène donc, qui commence par un baiser, qui était décrit comme, je crois, long, profond, amoureux, et qui s'en suivait avec une engueulade, et clairement, toute la... Je pense que la qualité de toute la scène qui suivait dépendait de l'intensité, de la sincérité du baiser. Donc, respectivement, on a travaillé ça comme un casting normal. On savait qu'on passait par deux, mais on ne connaissait pas du tout le partenaire. Et donc, avec François, on s'est rencontrés le jour d'audition. Le hasard a fait qu'on passe ensemble. Et je laisse François poursuivre
cette réponse. Voilà. C'est-à-dire qu'avec Geoffrey, on ne se connaissait pas du tout avant. C'est le hasard des horaires de passage du casting qui nous a réunis. Je crois qu'on a envisagé tous les deux le travail de la scène de casting de la même manière, ce qui fait qu'on s'est bien connecté quoi dans le jeu quand on s'est rencontré à ce moment-là. Donc c'est vrai que le casting s'est très bien passé quoi, il y a pas eu de c'était très agréable. Et c'est vrai que Jacques et Olivier avaient écrit une scène qui n'est pas dans le film mais qui leur servait juste donc au casting, qui comportait donc cette scène de baiser qui était quand même quelque chose qu'eux voulaient voir, savoir si les deux acteurs s'entendaient bien physiquement, s'il y a une alchimie qui se créait, et puis derrière le baiser une scène de comédie plus traditionnelle pour voir un petit peu comment ça jouait. Et après le casting, Jacques et Olivier ont souhaité nous rencontrer, nous ont fait lire le scénario en entier, on s'est rencontrés tous les quatre. On a échangé sur le scénario, sur comment ils envisageaient les choses, notamment évidemment cette grande scène sensuelle du début. Et je crois que tous les quatre, on était assez d'accord sur la façon de le faire, sur ce que voulaient montrer, sur ce que nous on acceptait de montrer, sur ce que. Enfin voilà, qu'on soit tous d'accord. Et ils souhaitaient nous rassurer, mais je dois dire que. Eux-mêmes avaient besoin aussi d'être rassurés, ils ne s'en sont pas cachés, et du coup on s'est tous rassurés les uns les autres au fur et à mesure de ces discussions, de cette préparation, et puis le jour du tournage.
Cette séquence que vous évoquez est absolument primordiale, elle est absolument nécessaire pour la beauté du film. D'habitude, dans un film d'amour, on se rencontre dans un cadre idyllique, et ensuite vient la scène de sexe. Mmh. Là, c'est tout le contraire. dans un lieu quand même assez glauque. Il y a une scène de sexe très très forte et ensuite vient l'amour. Par rapport à cette scène d'ouverture, est-ce que vous avez pensé au futur de votre carrière, que ça pouvait peut-être gêner ou pas le futur de votre carrière
Bah moi j'arrête le cinéma.
C'est ça. Je pense qu'évidemment on y a pensé, après on n'a tellement pas la main là-dessus de toute façon. Et c'est une scène dans laquelle il y a énormément de choses à jouer, au-delà du fait qu'il y ait des actes sexuels et de la nudité. Enfin, moi je me souviens, quand j'ai lu le scénario, bon, d'abord j'ai eu un peu peur évidemment, mais après je me suis focalisé sur tout ce qu'il y avait à jouer. Et il y a une multitude de choses à jouer dans cette scène, donc pour moi je la vois vraiment comme un travail d'acteur, et pas du tout comme exposer mon intimité, ou ça fait vraiment partie du travail, donc non. Après, on nous a dit, j'espère que les gens seront intelligents, et j'espère également.
Le film est absolument bouleversant, absolument magnifique. C'est un film qui parle qu'est-ce que c'est qu'être gay aujourd'hui en France, à Paris. Du Cassel et Martineau, que ce soit Jeanne ou Garçon Formidable, que ce soit Drôle de Félix, à chaque fois, leurs films sont des instantanés de la réalité. De qu'est-ce que c'est qu'être homo de nos jours. Donc, c'est un film très important. Je pense que c'est un film qui va devenir un classique. Je le pense réellement.
On lui souhaite.
En tout cas, le film a eu un succès absolument très enthousiaste à Berlin. Il a remporté le prix du public, le plus beau des prix, au Teddy Award. Quelle a été la réaction des Berlinois et des festivaliers à ce film ?
Très très enthousiaste.
Hein. Ouais, globalement c'était très très enthousiaste. Tous les gens qu'on a croisés, qui avaient vu le film, qui en avaient entendu parler, il y avait une vraie excitation autour du film. Et c'est vrai que tous les gens qu'on a croisés venaient nous voir avec chaleur et avec enthousiasme pour nous féliciter, pour nous remercier, remercier Jacques et Olivier d'avoir fait ce film-là. Et c'était assez beau, hein, l'élan de joie et d'enthousiasme qu'il y a eu autour du film.
Et puis je crois que aussi avoir le prix du public, enfin nous, ce que ça nous représente, je crois que c'est un vrai bonheur, mais parce que ça ouvre en fait au, parce que c'est un film qui peut peut-être faire peur sur le papier ou qui peut paraître exigeant, et je trouve que ça donne, voilà, les spectateurs aiment ça, c'est pas un jury, c'est pas non plus voilà, c'est quelque chose de public populaire. C'est hyper beau, je trouve, d'avoir ce prix-là.
Oui, c'est le public qui fait les films. Alors, si le public décerne un prix en disant qu'il a aimé, c'est magnifique.
Sur le tournage, c'était une équipe réduite, je crois.
Tout à fait.
Justement, pour avoir le côté très nouvelle vague que l'on voit dans le film. Bien sûr, on pense à Truffaut, bien sûr, on pense à Godard. On pense à Carax aussi, pour la scène où vous courez le long du canal Saint-Martin. On pense à West Side Story, pour la séquence où vous rencontrez. Il y avait combien de personnes sur le tournage ?
12, une petite quinzaine.
Une quinzaine, quoi, oui.
Mais c'était hyper agréable, du coup, parce que l'intimité qu'on devait avoir à deux, comme c'était une petite équipe, et pour la plupart, bon, peut-être je grossis un peu le trait, mais pour la plupart, comme nous, c'est la première fois qu'on a des premiers rôles, j'ai l'impression que c'était la première fois à un poste aussi important. C'était première fois en premier assistant, première fois en directeur de casting, pour tout le monde. Et du coup, il y avait ce même désir d'exigence, de montrer ce qu'on peut faire et d'y aller. Mais donc nous, on avait évidemment notre concentration et peut-être notre pression d'acteur, mais tout le monde aussi, donc il y avait un vrai truc d'équipe, on était tous dans le même bateau.
Et c'est donc un film sur la jeunesse, tout simplement, et c'est aussi un film sur la jeunesse de l'amour. Le film sort le 27 avril, ouais. On vous souhaite tout le succès qu'il mérite pour le magnifique Théo Hugo dans le même bateau.
Merci beaucoup.
Pluriel, 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 pluriel,
pluriel. Yeah. Voilà, c'était donc la première interview des acteurs de Théo et Hugo dans le même bateau. Donc le film d'Olivier Castel et Castel et Jacques Martineau qui sort aujourd'hui sur les écrans. Une interview, on a reconnu ta voix, c'est toi qui as mené l'interview.
Et j'avais 40 degrés de fièvre, ça s'entend un peu. En tout cas, le film sort aujourd'hui. Le film sort aujourd'hui au Comédia, allez le voir. C'est une belle expérience et c'est un film qui est visible pour tous les publics.
Alors là, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va écouter donc toujours par toi une interview donc d'Olivier Ducastel qui était présent à Lyon pour l'avant-première lors de l'ouverture du festival Écran Mixte. Par contre, je voudrais revenir un petit peu avant qu'on écoute donc le cinéaste. réalisateur du film. Je voudrais revenir un petit peu sur la trame, un petit peu du film. En fait, le film se déroule en temps réel. Et Théo et Hugo, ça fait penser à Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, qui est un film du début des années 60, 61, je crois. Et en fait, il reprend le même principe. C'est en temps réel. Ça se passe, je sais pas, sur 1h30, par exemple. Mais c'est 1h30 de temps réel. Il y a une unité de temps, on va dire, comme on dit dans le théâtre.
C'est ça, ouais.
Et en fait, c'est une déambulation dans Paris. Alors, il y a des références, j'ai cité Agnès Varda.
Il y a des références aussi à Godard, hein, ouais. Cette caméra mobile dans les rues de Paris. On pense aussi beaucoup à Léos Carax, notamment une scène où les deux personnages courent le long du canal Saint-Martin. On pense à Mauvais sang de Carax. C'est un film très nouvelle vague, effectivement. Et d'ailleurs, le premier titre du film, le titre provisoire, devait être Théo de 4 à 6, quelque chose comme ça.
Ouais. Oui, parce que ça se passe en fait...
entre 4h et 6h
à la sortie de la boîte à cul où ils se sont rencontrés, on va dire. On va écouter la suite donc de l'interview, enfin du moins Olivier Ducastel interrogé par Yvan Mutifio, notre chroniqueur cinéma.
Olivier Ducastel, bonsoir. Ça fait 20 ans que vous faites du cinéma. Vous avez réalisé avec Jacques Martineau Parmi les plus belles pierres de l'édifice de notre histoire commune, de notre mémoire commune aussi. À chaque fois que vous avez abordé la vie gay, c'était à chaque fois un instantané de la réalité, de la vraie vie gay. Avec ce film-là, Théo et Hugo, qu'est-ce que c'est qu'être homo aujourd'hui en France, à Paris ?
Oui, alors je réduirais un tout petit peu le champ, disons, du projet. Nous, notre projet, c'était vraiment de raconter le début d'une histoire d'amour, mais le tout début d'une histoire d'amour entre deux garçons. C'est beaucoup lié, en fait, à tous nos films précédents, au fait que tous nos films sont des films qui mettent en scène des histoires d'amour, plus ou moins heureuses, voire plutôt tragiques dans Jeanne et le garçon formidable. Donc là, c'est vrai qu'on avait plutôt envie de raconter une histoire d'amour qui finit bien, on va dire. Je pense que ce sera pas, je fais pas le spoiler par rapport au film. Et puis l'autre chose qui était très préexistante, vraiment à l'élaboration du projet, c'est qu'on voulait raconter une histoire d'amour qui commence, comme c'est quand même, je crois, souvent le cas pour les garçons gays, par une rencontre sexuelle qui devient une rencontre sentimentale. Simplement, au lieu de traiter cette histoire sur quelques jours, on a voulu la traiter sur le temps du film, en fait. C'est-à-dire vraiment accélérer, en fait, créer une accélération, en fait, dans la rencontre de ces deux garçons, en inventant, en fait, un certain nombre d'événements plus ou moins imprévus, qui fait que l'intensité de leurs sentiments est exacerbée par la rapidité du temps qui s'accélère, en fait, au cours de leur nuit, qui n'est même pas une nuit entière, quoi.
Alors, parlons de la forme du film. Le film se déroule quasi en temps réel. Le film dure 1h30 et quelques.
35.
1h35. Et l'histoire dure 1h35.
La même durée.
L'architecture du film fait penser au film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Je crois d'ailleurs que le film devait s'appeler Théo de 4 à 6.
Oui, le film a porté ce titre, Théo de 4 à 6, pendant, en fait, toute la préparation, l'écriture, enfin de 5 à 7, puis de 4 à 6. Et puis, en fait, assez vite, le producteur nous a dit qu'il n'était pas très fan du titre, pour deux raisons. D'abord, il trouvait dommage qu'il n'y ait que Théo dans le titre. Ça, je pense qu'il avait vraiment raison, que c'était mieux d'imaginer un titre avec Théo et Hugo. Et puis alors, il avait une idée qui, au début, nous a paru très paradoxale. C'est la première fois qu'on travaillait avec lui. Il trouvait que ça faisait pas titre de nos films. Ça ressemble pas au titre de vos films. Les titres de vos films sont plus amusants, c'est plus une promesse. Là, c'est trop simple, en fait. Et donc, du coup, en fait, en cherchant avec lui un jour, en plaisantant, en fait, on est arrivé à ce Théo et Hugo dans le même bateau. Et du coup, ça nous a quand même fait rire, parce que, comme dans les choses qui faisait un petit peu peur à Emmanuel, il y avait le côté un peu lourd, comment dire, c'est un peu difficile quand même de porter l'héritage d'Agnès Varda. On dit oui, alors c'est moins difficile de porter l'héritage de Jacques Rivette, effectivement.
C'est votre premier tournage low cost, on va dire. Le film fait beaucoup penser à la liberté que l'on retrouvait dans les films de la Nouvelle Vague. On pense à Truffaut, par exemple, ces personnages qui parlent de Balzac à 4h du matin dans Paris. On pense bien sûr à Godard pour la liberté, le soif de vie qui ressort. On pense bien sûr à Agnès Varda. On pense aussi à Léos Carax pour la scène où les personnages courent le long du canal Saint-Martin. C'est la première fois que vous tournez avec un tournage low cost. Qu'est-ce qui a changé finalement dans votre mise en scène par rapport à ça?
Alors je crois que le corollaire en fait du tournage rapide, c'est l'extrême préparation. C'est-à-dire que on a toujours beaucoup préparé les films. Jeanne et le garçon formidable, il y avait des répétitions de danse, on avait beaucoup préparé. Pour Drôle de Félix, on avait refait le voyage. Mais c'est toujours des préparations qui sont adaptées en fait à la forme du film et un peu à son économie. Là, pour ce film-là, en fait, il s'agissait surtout déjà d'arpenter Paris et de vérifier que les dialogues qu'on avait imaginés correspondaient au trajet que les personnages avaient à faire. Ou dans le sens inverse, que les trajets que les personnages avaient à faire, il allait falloir qu'il se passe un certain nombre de choses pour que ce soit pas ennuyeux, que voilà, que ça construise une forme de tension. Donc je dirais qu'il y avait deux formes de répétition. Il y avait des répétitions comme on pourrait faire au théâtre, des répétitions à la table qu'on a fait avec les acteurs, de beaucoup lire le scénario, de savoir exactement ce qu'on voulait que le spectateur ressente dans chaque scène. Donc ce quelles allaient être les émotions sur lesquelles eux, ils allaient devoir s'appuyer pour construire les scènes. Et puis, des repérages qu'on a fait avec le chef opérateur, beaucoup avec le chef opérateur, avec l'assistant réalisateur. Et en particulier, avec le chef opérateur, on a fait trois fois les repérages. On a fait tous les trajets trois fois. On les a fait une première fois pour la qualité de la lumière, savoir comment on allait gérer. Ah, là, c'est une rue orange, là, c'est une rue verte. Ensuite, quand on a eu éliminé ces questions sur lesquelles on n'avait évidemment aucune prise, puisqu'il s'agissait d'utiliser la lumière de la ville qu'on n'a pas rééclairée. Ensuite, on a fait des repérages en fonction du découpage, de se dire ce serait quoi les axes. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, on va quand même refaire un découpage un peu synthèse où on va présenter, en fait, on va faire une sorte de répétition générale où on va présenter les idées de l'organisation du tournage. Justement, en particulier, on avait une chef électro quand même avec nous. Les acteurs sont très légèrement rééclairés, en fait. Quand je dis que c'est pas éclairé, on n'a pas éclairé la ville, évidemment, mais on a en fait rééclairé les acteurs systématiquement dans les rues quand ils se déplacent, enfin quand ils sont en plan serré, pour qu'ils soient pas verdâtres et voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli.
Cette histoire de promesses, d'amour, et puis il y a cette très belle phrase où un des deux personnages dit, eh bien, dans quelques années, on se séparera. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autobiographique dedans, par exemple?
D'après vous?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est la promesse d'une vie d'amitié fondamentale.
Alors, je peux même vous dire que cette séquence, en fait, de la promesse de l'amour et de la promesse aussi de la possible séparation un jour, en fait, c'est une des premières scènes que Jacques a écrites. Et c'est une scène qu'il a écrite très peu de temps après notre séparation, et je crois qu'il était très en colère contre moi quand il l'a écrite. Voilà, donc du coup, oui, c'est vrai que c'est une scène, effectivement, qu'on écrit peut-être après une séparation. Effectivement, il aurait certainement écrit la scène différemment si ça n'avait pas été aussi peu de temps après la séparation.
Eh bien, merci Olivier Ducastel pour son film absolument magnifique, qui était au Hugo, dans le même bateau.
Bah, merci beaucoup, je suis heureux que vous aimiez le film, parce que moi aussi je l'aime beaucoup.
Pluriel gay.
You Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby.
You sexy motherfucker.
Horn, stand up, please.
Eh bien, c'est à nous.
Eh bien, c'est quoi cette absence?
Non, mais j'ai été plongé dans la chanson de Prince. Donc voilà, j'ai jugé qu'il était intéressant de faire aussi un petit rappel de ce que Prince a pu faire de mieux, à mon avis. C'était sur l'album Symbol, les deux morceaux qu'on a écoutés, un album de 1992. Voilà, donc on va revenir donc, à toi, Yvan Midifio. chroniqueur cinéma, directeur du festival à écran mixte, directeur artistique. Alors, il y a dans l'actualité cinématographique, il y a quelque chose, un film dont tu voudrais nous parler, qui est un film donc qui va sortir sur les écrans la semaine prochaine.
Mercredi prochain.
Qui s'appelle Les Amants de Caracas.
Les Amants de Caracas, c'est un film qu'on avait vraiment envie de défendre avec écran mixte. C'est un premier film. C'est un film vénézuélien. Et le film a eu le Lion d'Or à Venise lors de la dernière Mostra de Venise. Donc c'était en septembre dernier, je crois. Mmh. C'est un film très intéressant. L'histoire, de fascination, rapprochement et d'amour entre un homme qui souffre de solitude, une cinquantaine d'années, qui n'ose pas passer le pas de l'homosexualité et qui fait appel à des jeunes hommes et qui les paye pour se déshabiller. Voilà. Et puis il va tomber amoureux d'un jeune, comment dirais-je, un petit chat sauvage des rues des quartiers pauvres de Caracas, qui a 17 ans. Et entre eux, ils vont apprendre à se connaître, s'apprivoiser. Et les amants de Caracas, ce sont eux justement. Donc le film, il y a une espèce de réalisme social très fort. On voit vraiment le Caracas. Qu'est-ce que c'est Caracas aujourd'hui? On voit bien aussi les quartiers pauvres de Caracas. Et la forme du film fait beaucoup penser à un film qui s'appelait La Vierge des Tueurs de je me rappelle plus le réalisateur.
C'est un film brésilien, celui-ci.
Oui, on pensait. Oui, voilà. Il me semble. Je me rappelle plus le nom du réalisateur.
Non, pas brésilien, argentin. Bernardo va intervenir.
Non, c'est un film français.
Français.
C'est un réalisateur français.
Mais ça se passe en Colombie, non?
Ça se passe en Colombie.
Voilà.
C'est l'histoire d'un écrivain qui retourne dans son pays, dans sa ville, pour y finir ses jours.
Ouais.
Et toute l'histoire se déroule là. Et je ne me souviens plus du nom de l'auteur non plus, du réalisateur. Mais c'est un film français, mais tout est en version originale espagnole.
Ouais, ouais. Et ça se passe en Colombie sur fond de trafic de cocaïne, etc. C'est assez violent. Alors, je ne sais pas si les amants de Caracas...
Oui, c'est violent aussi. Mmh. Donc, on est vraiment dans cette veine-là, latino. Et ça m'a fait penser aussi à du Haneke, pour une sorte de mise en scène implacable, très froide. Avec une architecture quand même froide, glaciale et aussi assez implacable. C'est un film dur, faut le savoir. Les Amants de Caracas c'est pas une romance, hein. C'est un film dur, mais c'est un film intéressant. Lion d'Or à Venise tout de même, c'est un premier film, premier film et Lion d'Or à Venise tout de même.
Ouais.
Et ce film fait partie de ce qu'on appelle le nouveau cinéma vénézuélien. Apparemment, il y en a un. Donc, il faut se réjouir que ce genre de cinéma puisse sortir, être montré en France toujours. Hein, vous savez, exception culturelle en France, on voit tous les films des pays du monde. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et c'est un film qu'on avait envie de défendre, on avait envie de le défendre par une avant-première, puisque le réalisateur était sur Paris il y a quelques jours, ça n'a pas pu être fait. Le film sort mercredi prochain, Les Amants de Caracas, au CNP Bellecour, tout fraîchement réouvert depuis maintenant 6 mois.
Alors le mois de mai s'annonçant, c'est aussi le mois du Festival de Cannes.
Ben oui.
Et c'est aussi pour cette occasion que tu es venu nous voir, parce que le Festival de Cannes qui va commencer le 11 mai, cette année assez prolifique finalement en matière de cinéma, on va dire LGBT.
Parce qu'il y a tout de même 3 réalisateurs gays dans en compétition.
Xavier Dolan me reprendrait, ou Dolan, je sais jamais. Xavier Dolan me reprendrait parce que lui, il aime pas qu'on lui attribue cette étiquette.
Oui, mais bon, c'est quand même. Et bon, il est quand même très très gay.
Et il est dans le festival, enfin avec sa dernière.
Il y a le nouveau film de Xavier Dolan. Mm. Il y a le nouveau film de Pedro Almodovar. Et puis, il y a le nouveau film de Alain Guiraudy, 3 cinéastes gays, 3 cinéastes qui s'assument gays. Dolan s'assume gay, mais il ne veut pas que son cinéma soit assimilé à du cinéma LGBT, c'est ça en fait. Hein. Mais lui, vraiment, il parle des questions LGBT de manière très naturelle. Et c'est en ça que son cinéma est aussi, quelque part, révolutionnaire. Donc, il revient avec... je crois qu'il a fait 2 films coup sur coup. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Le film qui présente à Cannes s'appelle « Juste la fin du monde ». C'est une adaptation d'une pièce de théâtre française de Jean-Luc Lagarce. Beaucoup de gens l'ont lu. Jean-Luc Lagarce est mort du sida en 95. C'est une pièce qu'il écrit en 1990. Il sait qu'il est atteint du sida. Il sait qu'il va mourir. Et l'histoire de la pièce, c'est l'histoire d'un homme qui est condamné et qui va rendre visite à sa famille, à sa mère, à son frère, à sa sœur, pour leur annoncer qu'il va mourir. Voilà. Et puis, une fois sur place, c'est pas ce qui va se passer. Et puis, il va repartir sans leur avoir dit qu'il allait mourir. Il va mourir seul, voilà. Donc, c'est vraiment un drame familial. C'est une pièce de théâtre qui est construite en monologue. Quand on connaît la facilité qu'a Xavier Dolan à manier les dialogues de manière absolument époustouflante, hein, rappelez-vous, J'ai tué ma mère et Mommy, on peut s'attendre à quelque chose de très fort. Le casting est absolument incroyable. C'est dans le rôle de la mère, on a quand même Nathalie Baye, on a Léa Seydoux, c'est Gaspard Ulliel qui joue le rôle du jeune homme qui va mourir. C'est un casting vraiment hyper classieux, production américaine. Alors ce côté hybride, Lagarce, production américaine et superstar française, à mon avis ça va donner quelque chose de très 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 fort. Le film est en lice pour la Palme d'Or, Juste la fin du monde, et on a vraiment hâte de le voir. Enfin, moi j'ai très hâte de le voir.
Xavier Dolan, c'est un cinéaste qui très dans l'immédiat a été, considéré comme un grand cinéaste.
Ah oui, t'es le premier.
Il n'a pas eu le temps de s'imposer petit à petit, ouais, par un certain nombre d'œuvres, etc. Je dirais un certain nombre d'œuvres qui seraient un petit peu confidentielles. Lui, d'emblée, dès ses premiers films, tout le monde a crié au grand cinéaste, etc. C'est pas le cas d'Alain Guiraudy, qui est aussi un grand cinéaste, mais qui lui est resté beaucoup plus tapis dans l'ombre, je dirais.
Alors lui, voilà, c'est le processus inverse, on va dire. Alors moi, je dis que dès son premier film, c'est déjà un très grand cinéaste. Quand on voit ses courts-métrages, quand on voit ses moyens-métrages, que je trouve parfois même supérieurs à ses longs-métrages. Par contre, c'est un cinéaste, oui, qui a été un peu en dehors du circuit. Pas underground, oui, quand même un peu underground, très marginal, très marginalisé, très marginal dans le milieu du cinéma. Sauf que ses premières œuvres, ce sont déjà des œuvres gigantesques. Ce vieux rêve qui bouge est une œuvre incroyable. Du Pas de soleil pour les gueux est une œuvre, peut-être son meilleur film, mais en tout cas c'est le film qu'il préfère aussi. Et c'est vrai que depuis qu'il est au long métrage, chaque film est bien supérieur à l'autre. Le deuxième est bien supérieur au premier, le troisième était bien supérieur au deuxième, et le dernier, donc L'inconnu du lac, le dernier en date qui date de 2013, lui, alors vraiment, il y a un bond en matière de mise en scène, enfin, c'est très impressionnant.
C'est ce film qui a fait sortir un petit peu Alain Guiraudy de l'ombre, je dirais, pour ceux qui ne connaissaient pas, qu'il a ouvert au plus grand public, on va dire.
Oui, et puis grâce à Cannes aussi, hein, qui lui a donné une envergure et une légitimité, parce que c'est pour moi un des plus grands cinéastes qui soit en France, et c'est Cannes aussi qui lui a donné cette légitimité absolument incroyable à travers le monde. Et là, donc la dernière fois, il était sélectionné en 2013 en sélection officielle dans la catégorie Un certain regard, mais cette année, avec son nouveau film qui s'appelle Rester vertical, là il est carrément en lice pour la Palme d'Or. Et moi je vous dis qu'il l'aura, mais bon, vous verrez. Alors l'histoire de Rester vertical, c'est du pur Guiraudy, c'est l'histoire d'un cinéaste d'une cinquantaine d'années, donc on imagine, hein, le côté autobiographique, qui est en perte un petit peu de désir, qui se pose des questions aussi sur la paternité, et qui va partir sur les routes. Finir apparemment dans la déchéance sociale. Voilà, donc c'est un film très guiraudien, c'est-à-dire ça parle, il y a un côté social très très fort. La nature est très très forte, puisque le film a été tourné entre le sud-ouest et Brest. C'est un film aussi qui va parler de désir, comme toujours chez Guiraudy, très certainement peut-être d'homosexualité aussi, en tout cas de sensualité. Très hâte de le voir. Et si ce film est encore supérieur à L'inconnu du lac, jusqu'où va-t-il nous mener? Alain Guiraudy, dont on a présenté la première rétrospective intégrale, c'était à écran mixte en mars dernier, dans lequel on a pu voir donc tous ces films à quelques heures de projection. On pouvait voir deux trois films de Guiraudy.
Et en présence d'Alain Guiraudy.
En sa présence, il était très généreux. Oui. Il était très généreux. À chaque fois, il y avait toujours 40 minutes de débat. Dans des petites salles en plus, des scènes pétéro, il y avait une ambiance très très conviviale, très sympa. Et puis bien sûr, il a eu deux grandes séances à l'Institut Lumière qui nous a accueillis encore de manière très généreuse cette année. Donc Xavier Dolan qui revient donc avec Juste la fin du monde, l'adaptation de Jean-Luc Lagarce. Alain Guiraudy qui revient avec un film très personnel en compétition. Et puis il y a aussi le nouveau film de Pedro Almodovar, Julieta. Donc je crois que Julieta est sorti en Espagne le 8 avril.
D'accord.
Voilà. Malheureusement, au moment où la promo du film, on a appris que Almodovar avait peut-être des... On a appris, en fait, par rapport au fameux Panama Papers, qu'en fait, il avait une société. Il avait monté dans les années 90, en 94, avec son frère, une société à Panama. Donc, ça a vraiment desservi le film. Il a arrêté la promotion du film à cause de ça. Alors, on est dans une période quand même de lynchage. On est dans une période où on veut couper des têtes. Et donc, il y a eu un acharnement médiatique contre Almodovar. Il n'a pas assuré la promotion du film. Il n'est pas allé à l'avant-première du film... à Barcelone, je crois. Et le film, néanmoins, est à Cannes. Peut-être aussi pour lui donner une seconde chance. C'est quand même un des cinéastes les plus importants actuels. Et là, il est carrément en compétition. Donc, il est en lice, lui aussi, pour la Palme d'Or. Donc, Julieta, ça marque le grand retour d'Almodovar au drame. Peut-être avec son film, dit-on, le plus stylisé, le plus froid, le plus implacable. Une histoire, encore une fois, très complexe. Avec des passerelles temporelles assez fulgurantes comme il le fait toujours. On parle d'une mise en scène assez différente, d'une maturité et surtout d'une... pas d'une maturité parce qu'il l'a depuis 20 ans, mais de quelque chose de plus froid et de plus dark. Voilà. Julieta aussi est un film qui donne envie. Quand on a envie
bah, oui. Déjà, de fait même que ce soit le dernier Almodovar, c'est toujours le film qu'on a envie de voir, le dernier Almodovar. Alors après, c'est inégal aussi, hein, mais Les Amants Passagers, c'était une petite, un film sympa. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé.
Je l'ai pas vu, moi, toujours pas.
Tu l'as toujours pas vu. Julieta, peut-être, apparemment, est beaucoup plus almodovarien.
Encore un grand portrait de femme, comme il fait d'autant, des grandes actrices, des histoires de, une histoire aussi de maternité tourmentée.
Ouais.
Moi, j'ai hâte. Voilà. J'ai hâte de le voir.
Donc, le Festival de Cannes du 11 au 22 mai avec ces trois artistes, ces trois cinéastes LGBT. Par contre, on note encore une fois l'absence de femmes particulièrement.
Non, il y a des femmes qui sont sélectionnées cette année.
Oui, non, mais je veux dire de femmes de thème lesbien.
Oui, ah voilà. Oui. Eh bien, faites des films.
Faites des films.
Faites des films. On va dire à Lolo, fais des films, Lolo.
Que nous saluons, que nous embrassons notre Lolo national. Alors, le Festival de Cannes, parallèlement, on en parle toutes les années, c'est aussi la Queer Palm. Alors, si tu peux nous rappeler ce qu'est la Queer Palm, déjà.
La Queer Palm est le prix LGBT Open Mind du Festival de Cannes qui récompense chaque année le film qui aura le mieux représenté les questions et les thématiques LGBT au sein du Festival de Cannes, toutes sélections confondues, qu'elles soient officielles ou non officielles, comme la Quinzaine des réalisateurs ou la Semaine de la critique. Voilà, donc il y a une sélection qui est faite de films traitant de féminisme, qui est traitant de questions LGBT, de transidentité. Il y a un jury qui est constitué, qui voit les films et qui ensuite remet le prix de la Queer Palm. L'année dernière, c'était le très beau Carole de Todd Haynes.
Un film de femmes, justement.
Oui, et d'ailleurs, le jury était composé uniquement de femmes l'année dernière. Et cette année, les deux présidents du jury, ce sont justement Ducastel et Martineau.
Ouais.
Voilà.
Alors, on revient à eux, finalement. La boucle est bouclée.
Donc, ils seront présidents du jury. Et donc, c'est eux qui décerneront la Queer Palm cette année.
De cette année.
Et donc, encore une fois, le but de la Queer Palm, c'est quoi ? C'est de, je dis à chaque fois, hein, c'est de profiter qu'il y ait toutes les caméras du monde à un instant précis pour parler de ces questions LGBT, que ce soit des caméras russes, de pays homophobes aussi, justement, qui sont en train de couvrir Cannes. Le but est aussi de parler des questions LGBT au moment où il y a toutes les caméras du monde. C'est du militantisme aussi, c'est de la grande cinéphilie et c'est aussi du militantisme.
Voilà, ça existe depuis quelques années.
Depuis 2010, c'est donc là, 2016, 7e.
Sixième, on est en 2016. Septième, oui.
Septième, voilà. Ouais. Septième édition de la Queer Palm.
D'accord. Alors, je voulais préciser aussi, et Bernardo, tu peux nous préparer une petite pause musicale, mais avant, je voulais reparler d'un très bon film qui a été présenté aussi au festival Grand Mixte, mais c'était c'était l'année d'avant. C'est Vivant, de Vincent Boujon. Alors, il se trouve que Vivant de Vincent Boujon a continué sa carrière de cinéma en cinéma, de festival en festival, et va être diffusé, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, à La Fourmi demain, Donc demain jeudi 28 avril, c'est à 20h à la Fourmi. C'est un très beau film qu'on avait eu l'occasion de découvrir au Festival Écran Mixte. C'est un film qui parle aussi du sida.
Ah ouais, et de manière très originale.
Voilà, tout à fait.
Et optimiste, et drôle, et c'est un film qui porte bien son titre.
Ouais.
Puisqu'on sort du film, on a envie de quoi ? On a envie de vivre, tout simplement. Hein. C'est un film incroyable.
Ouais.
Vincent Beaujon, le réalisateur, sera là demain soir pour échanger avec le public. La Fourmi, allez-y, allez redécouvrir ce cinéma qui, ouais, qui a réouvert il n'y a pas longtemps. Mmh. C'est un petit bijou, pour moi c'est le petit bijou de Lyon. Ce sont des salles assez petites, mais on s'y sent incroyablement bien. Entièrement rénovées, tout neuf. Et donc Vincent Beaujon sera là demain pour présenter son film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez déjà vu, amenez des gens, allez le voir. Il faut que ce soit plein. Parce que d'abord, c'est un film aussi qui se vit. C'est un film interactif un peu. Qui se vit. Et c'est un film qu'il faut voir avec une salle pleine.
Oui, ouais. C'est vrai qu'il avait été diffusé au Comédia.
Comédia, la grande salle, oui.
Et les gens riaient, applaudissaient. Chacun des exploits de tous ces hommes qui étaient réunis donc, pour aller au-delà d'eux-mêmes,
ah, c'était,
et au-delà de la maladie.
Ouais. C'est un film magnifique.
C'est un très beau film. Effectivement, donc si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Si vous l'avez vu, il faut aller le revoir.
Demain, 20h, à la Fourmi.
Voilà. Alors, pour revenir à la Fourmi, justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a un renouveau des salles art et essai à Lyon. Ça, c'est grâce à Thierry Frémaux.
Oui, et grâce à l'Institut Lumière, donc, ouais, qui a racheté des cinémas qui étaient voués à devenir des magasins de chaussures. Et donc, c'est très rare. Enfin, en fait, dans l'histoire des établissements de cinéma, il est très rare que quand un cinéma ferme, qu'il redevienne un cinéma. Mmh. Il redevienne toujours autre chose. Et là, miracle, ces cinémas voilà, ont réouvert. La Fourmi est un bijou. Le cinéma Bellecour, vous l'avez découvert pendant le Festival Lumière et pendant le Festival Écran Mixte. On y est bien. Et le Terreau, alors lui, il est absolument, c'est le plus beau cinéma de Lyon pour moi. Il a gardé tout son cachet qu'il avait, c'est-à-dire les pierres apparentes, ses voûtes et tout, mais avec des qualités de projection fantastiques, quoi. C'est enfin à Lyon, on va pouvoir. Il y a des tas de films qui passent à la trappe parce qu'il n'y avait plus de salles à arrêter. Au centre-ville, il y avait donc Le Pâté, il y avait Le Comédia, mais il y avait des tas de petits films, des documentaires exigeants qui ne trouvaient plus leur place au centre-ville de Lyon. Aujourd'hui, c'est le cas. Lyon redevient la capitale du cinéma grâce au savoir-faire, à la générosité de l'Institut Lumière.
De l'Institut Lumière, dont Thierry Frémaux est le directeur.
Il est directeur, mais au sein de la Société des Cinémas Lumière, il en est le président.
D'accord.
C'est une société privée. Et
qui est aussi le directeur artistique du Festival de Cannes, Thierry Frémaux.
Le délégué général.
Le délégué général, d'accord.
Et voilà, donc il y a beaucoup de monde. Les séances du week-end sont pleines et tout. Et surtout, ils ont une programmation extraordinaire. Allez voir leur site. Vous avez des dizaines de films chaque semaine.
Très bien. On rajoutera les sites sur les liens de l'émission, sur les pages internet de l'émission. Je rappelle le site de l'émission, pluriel, gay.fr, et puis la page Facebook du même nom. Alors, en tout cas, merci Yvan d'être venu. On va rappeler un petit peu le sommaire de l'émission de ce soir. Donc, Théo et Hugo dans le même bateau en sortie nationale aujourd'hui, qui avait fait l'objet de l'ouverture du Festival Écran Mixte.
Qui est au Comédia.
Au Comédia. On a ensuite Les Amants de Caracas, ça c'est la semaine prochaine, mercredi prochain.
Qui sort au CNP Terreau.
CNP
Terreau. Non, au CNP Bellecour, pardon.
Voilà. Ensuite, pour les stars glamouresques pourront aller sur la croisette se faire voir du 11 au 22 mai pour le Festival de Cannes. Et la Queer Palm, donc, hein, qui a un annexe du Festival de Cannes. Et puis demain, la projection donc, du film documentaire de Vincent Beaujon, que nous aimons beaucoup, qui nous a tiré des larmes de joie et de tristesse en même temps. C'était Vivant, donc c'est aux Fourmis demain à 20h. Voilà, Vivant, en tout cas, merci d'être revenu nous voir.
Merci, patronne.
Mais c'est toujours un plaisir.
Mais tu sais que je crois qu'on va se revoir au mois de juin pour une émission musicale, je crois.
Oui, alors on va donner une suite à notre... Ça sera un triptyque, finalement, nos émissions, puisque ça sera la troisième émission consacrée aux comédies musicales. Mais là, le thème sera particulier. Il s'agira des grands duos, des comédies musicales.
Voilà
sans ça. Rien déflorer hein, au-delà. Voilà. Faut laisser le suspense. Voilà, Bernard, merci d'être venu. Une nouvelle fois sur la technique. Merci Yvan encore une fois. Alors je ne sais pas, parce qu'on va se quitter maintenant en musique. Alors je sais Bernard qui a prévu le dernier morceau musical, je ne sais pas ce que c'est. Et bien, qu'est-ce que c'est Bernardo ? Ah, il ne sait pas lui-même, donc...
J'ai prévu un Lou Reed, mais voilà, entre autres, mais il y aura peut-être un...
Ah bah Lou Reed, c'est bien, oui.
Il y aura peut-être encore un autre en plus.
Oui, d'accord. Donc,
je voulais rajouter, là, pour La Vierge des Tueurs, c'est Barbet Schroeder qui l'a fait.
Ah oui, voilà, Barbet Schroeder, oui, évidemment. Comment avons-nous pu oublier le nom de ce cinéaste, Barbet Schroeder? Très bien. Bon, alors, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine sera un peu particulier. Enfin, pas particulier. Ça sera toujours dans notre thème habituel. Il se trouve que ce week-end, je ne sais pas si tu étais au courant, mais avait lieu, enfin, c'était lundi soir, avait lieu le show continental, l'élection de Miss et Mister Europe. Alors, ça concerne, donc, c'est un show qui concerne, d'une part, c'est une compétition de drag queen, et d'autre part, de mecs, de beaux mecs, bodybuildés, tu sais, comme on les aime, avec des muscles de partout, quand ça, il y a de la sueur qui dégouline, le genre des pectoraux. Alors, je m'arrête là. Donc, du coup, en fait, c'était lundi, et ce week-end, j'étais en compagnie, donc, des différents protagonistes du show continental, les gagnants de l'an dernier aux États-Unis, puisque c'est un show américain à la base qui s'est maintenant implanté en Europe, et dont les gagnants vont postuler du show Europe, postuleront donc la fin de l'année au show continental qui, toutes les années depuis 30 ans, a lieu à Chicago. Et là, depuis 3 ans, le show européen se déroule à Lyon, c'est nouveau, il y a très peu, il y a, pour ainsi dire, pas de show de même type dans toute l'Europe. Et comme il se trouve que les promoteurs du show continental Europe vivent aux États-Unis, mais ils sont lyonnais. C'est Lyon qui a droit depuis 3 ans, donc, à cette festivité. Et la semaine prochaine, on en parlera. Il y aura des interviews dans les coulisses. Voilà. Eh bien, on va écouter donc la chanson. Merci à tous les auditeurs et les auditrices. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, Yvan.
Bonsoir.
Bonsoir.
There's a downtown fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's 5 Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. It's Halloween, it's something to be sure of. Especially to be here without you. There's the born again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D, a Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down. Especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no 3 Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today. Especially when I know you've gone away. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5, 2 plus 3. And the girl for pay dates are giving cut rates or else doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door. And I don't want to hear it anymore. No consolations, please, for feeling funky. I gotta get my head above my knees. But it makes me mad and it makes me sad. And then I start to freeze. In the back of my mind I was afraid it might be true. In the back of my mind I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. At the Halloween parade. See you next year at the Halloween parade. Halloween parade.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.